Nos objets du quotidien sont des puits de sciences physiques. C'est le pari de plusieurs chercheurs de l'école de physique et chimie de la ville de Paris qui publie du merveilleux caché dans le quotidien aux éditions Flammarion. Le sous-titre, c'est la physique de l'élégance. Et là, nous allons justement nous faire beau en portant des colliers, Cécile Guérin.
Ou des chaînettes dorées. Peut-être portez-vous en ce moment un collier de perles identique. Alors regardez-vous dans le miroir, observez de près la forme de ce collier. Comme le dit Benoît Roman, physicien, quel que soit le collier, il a toujours la même forme géométrique.
Mathématiquement, de façon précise, c'est pas vraiment une parabole, même si ça ressemble effectivement de loin. En réalité, c'est un cosinus hyperbolique.
Un cosinus hyperbolique, c'est-à-dire que toutes les chaînettes sont sous cette forme mathématique. Elles ont
exactement
toutes la même forme mathématique. Qui s'explique comment alors, en fait ? Une histoire de force.
Exactement. Alors cette forme, d'où elle vient ? Alors, si on regarde une perle, il y a son poids qui la tire vers le bas. Mais elle est aussi tenue des deux côtés par le fil qui exerce une tension de chaque côté. Et la somme de ces deux tensions doit exactement compenser le poids. Et ça, c'est la formule du cosinus hyperbolique. Et en fait, c'est pas seulement les colliers de perles qui ont cette forme-là, mais aussi, par exemple, un pont de liane qui est tendu entre deux rives au-dessus d'une rivière. Et c'est aussi une structure qui tient par la tension du fil. Et la forme de ce pont, c'est exactement la même du collier de perles en bas.
Est-ce que du coup, les ingénieurs, pour faire des ponts suspendus, ou les gens, pour faire des ponts suspendus, quand ils ont fait leur premier pont suspendu, ils ont pensé à ça ?
Probablement pas, parce que si on veut, on sait bien, si on veut accrocher du linge pour le faire sécher, on prend une corde et on tire dessus. Mais la forme que va prendre cette corde à linge, c'est aussi une forme de chaînette, hein, c'est la même chose. Une des questions, ça serait quelle force il faut que j'applique sur la corde pour que ma corde à linge ne soit pas trop défléchie vers le bas. J'ai pas envie que le linge traîne par terre. Vous vous rendrez assez rapidement compte que plus vous voulez que la corde soit horizontale, et plus il va falloir tirer fort. Donc une des conséquences pour les ingénieurs, par exemple, c'est que si on veut faire des ponts très longs, il faudrait tirer extrêmement fort. Et donc une meilleure idée, c'est de faire des ponts suspendus, qui sont des ponts, on construit des grandes piles verticales, et on suspend le tablier par une de ces formes un peu genre chaînette. Mais l'idée, c'est de les tenir très très haut, parce que plus on autorise la forme à être incurvée vers le bas, moins on a besoin de tirer fort. Par exemple, pour le Golden Gate, on voit bien ces très très grandes piles sur les côtés qui permettent de réduire la tension dans les câbles qui retiennent le tablier.
Collier de perles ou pont de liane, même forme, même combat. C'est un physicien anglais génial qui s'est passionné pour les chaînettes au XVIIe siècle.
C'est Robert Hooke qui nous a le premier parlé de la forme d'un collier, qu'on appellerait la forme d'une chaînette aussi. Et Robert Hooke, il est du XVIIe siècle, c'est un contemporain de Newton. Et d'ailleurs, c'était pas un copain de Newton, ils avaient une dispute scientifique assez violente, au point que Newton a travaillé énormément à l'académie pour réduire le plus possible les traces de ses contributions, qui sont assez importantes dans beaucoup de domaines. Robert Hooke, c'est vraiment un géant de la physique et un des fondateurs de la physique moderne. L'une de ses contributions, c'est d'avoir remarqué la forme de la chaînette, d'avoir remarqué effectivement qu'elle est la même, quel que soit le matériau, quel que soit le nombre de perles, à condition que les perles soient toutes identiques sur la chaînette. Et cette forme-là, il avait proposé que si on la renverse, donc si on la dessine à l'envers, on inverse le haut et le bas, alors ça ressemble à une arche. Et si on construisait des arches en pierre avec selon cette forme-là, elles seraient optimales, ce seraient les arches les plus efficaces pour résister au poids.
Vous doutez peut-être de l'intuition géniale de Robert Hooke, alors je vous propose d'en faire l'expérience. Vous avez besoin pour cela de perles identiques, d'un fil, de deux clous, et d'une planchette.
On enfile donc les perles sur le fil et on se débrouille pour qu'elles soient bien jointives. À ce moment-là, on les fixe aux deux extrémités, par exemple par des clous sur cette planchette. Et quand on retourne la planchette, et si on le fait lentement et que les perles sont bien jointives, et bien on peut maintenir la chaînette à l'envers en formant une forme d'arche qui est celle qu'imaginait Hooke quand il réfléchissait à ce problème au XVIIe siècle.
D'accord, donc du coup les forces de tension qui étaient dans la chaînette d'origine se transforment quand on bascule délicatement la planche. J'imagine qu'il faut être délicat, il faut qu'elle soit à l'horizontale et puis après de l'autre côté, on la bascule de l'autre côté. Et là du coup les forces de tension se transforment en forces de compression et on a une arche.
Voilà, c'est l'idée géniale de Robert Hooke qui est de dire qu'à ce moment-là, on a une solution qui est mathématiquement la même, mais où on change la tension du fil en compression du fil. Et on voit bien que cette compression, elle est de nouveau bien dirigée partout selon l'axe du fil. Et donc, ça va être une solution où il n'y aura aucune force perpendiculairement à l'axe de la structure.
Mais dites-moi, les arches qui ont été construites, notamment par les Grecs, bien longtemps avant Robert Hooke du XVIIe siècle, ils avaient compris ça, sans avoir l'histoire de la chaînette.
Les arches, c'est une structure très ancienne, et on avait compris depuis longtemps qu'on pouvait transformer le poids de la structure en la répartissant selon la ligne de l'arche. Mais l'idée de génie de Hooke, c'est de dire que si on voulait faire une arche extrêmement fine, de plus en plus fine, même peut-être infiniment fine, et bien il faudrait de plus en plus se rapprocher de cette forme optimale qui est celle de la chaînette inversée.
Est-ce qu'il y a des voûtes ou des arches comme ça, construites à partir d'une chaînette inversée ?
Un des grands architectes qui a utilisé cette technique, c'est Antoni Gaudi, donc au 19e. Et dans la Sagrada Familia, on peut visiter une partie où il montre comment cet enchevêtrement d'arches très complexes, il les a imaginées en regardant une assemblée de chaînettes qu'il a accrochées les unes aux autres et placé même un miroir par terre pour pouvoir voir la forme inversée et se donner une intuition de ce que ça allait donner en vrai. Donc cette idée de renverser des chaînettes, c'est vraiment quelque chose que les gens utilisaient pour la construction. Un autre architecte qui a révolutionné la fabrication de voûtes en béton, cette fois-ci c'est au 20e siècle, c'est Hans Isler, qui est un ingénieur suisse, qui a eu cette idée de s'inspirer et même de mesurer très précisément la forme de draps qu'il laissait pendre, accrochés à certains piquets. Alors soit il les empesait avec du plâtre, soit même il les a imbibés d'eau et les a laissés geler pendant la nuit. Pour les figer, il mesurait la forme de ses arches. Et donc là, c'est une extension à un système en deux dimensions, donc une voûte tridimensionnelle, de cette idée d'arche qui est seulement une ligne. Et en faisant ça, il a réussi à fabriquer des voûtes extrêmement fines en béton qui ont révolutionné un petit peu la fabrication des structures minces dans le milieu du 20e siècle.
D'un simple collier de perles, nous en arrivons à l'architecture moderne en passant par des ponts suspendus. Franchement, c'était un beau voyage. Merci à Benoît Roman, un des auteurs de l'ouvrage du merveilleux caché dans le quotidien, La physique de l'élégance aux éditions Flammarion.
CQFD sur la première.